Washington.
Bonsoir à tous, Eric Manilakiza en direct de la capitale américaine, vendredi 15 février 2019. Le Monde aujourd'hui, édition de 17h30, temps universel, au sommaire ce soir. Deux soldats tués et 6 blessés au Burkina Faso dans l'explosion d'un cadavre piégé à Djibo, dans le nord du pays. Élection générale de demain au Nigeria, le groupe sécessionniste Biafra lève sa menace de boycott. En Côte d'Ivoire, Guillaume Soro forme un comité politique après sa démission de la présidence de l'Assemblée nationale. Et aux États-Unis, le président Donald Trump décrète l'urgence nationale pour construire un mur à la frontière avec le Mexique. Ne ratez pas l'actualité économique et les sports, mais d'abord le journal. Au Nigeria, le groupe séparatiste qui réclame l'indépendance du Biafra dans le sud-est a levé sa menace de boycott de l'élection générale prévue demain. Le point avec Yakuba Ouedraogo.
Notre chef suprême, Mazim Namdi Kanu, a suspendu l'appel au boycott des élections dans le Biafra, a déclaré le porte-parole du mouvement autochtone des peuples du Biafra. L'IPOB avait appelé ses membres à ne pas se rendre aux urnes pour élire le président et les députés. Hier, dans un tweet, Namdi Kanu a écrit que les conditions ont été remplies, signées et livrées sans donner plus de précisions. Son frère, Prince Kanu, a affirmé que des détails sur ces conditions vont être révélés bientôt. Le leader n'a fait aucune déclaration sur le candidat de son choix. Le président Muhammadu Buhari a longtemps été l'ennemi numéro un du mouvement indépendantiste. Son principal rival, Atiku Abubakar, a choisi Peter Obi, ancien gouverneur de l'État d'Anambra, Igbo, pour le seconder. Après avoir appelé à la création de l'État du Biafra, Namdi Kanu a été arrêté fin 2015, peu après l'élection de Muhammadu Buhari, avant d'être libéré sous caution. L'IPOB défend l'indépendance des Igbo qui représentent la majorité de la population dans le sud-est du Nigeria.
Yakuba Ouedraogo, toujours au Nigeria, le président de la Cour suprême a plaidé non coupable d'accusations de fraude et de corruption devant le tribunal du code de conduite. La défense de Walter Onogen a déclaré que c'est une journée très triste pour la justice, très triste pour la démocratie et très triste pour le Nigeria. Le président de la Cour suprême a autorité pour départager les candidats en cas de litige et d'accusation de fraude électorale. En Côte d'Ivoire, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, veut continuer à peser sur l'échiquier politique du pays. Il a annoncé aujourd'hui la création d'un comité politique. Depuis Abidjan, les précisions de notre correspondant Georges Ibrahim Tunkara.
Une semaine après avoir été contraint de quitter la présidence de l'Assemblée nationale, voilà Guillaume Soro dans ses nouveaux habits d'opposant. Face à la presse qu'il recevait dans sa résidence de Markori dans le sud d'Abidjan, Guillaume Soro s'est cependant montré peu bavard. Principale annonce de cette conférence de presse, la création d'un comité politique en vue de se faire entendre dans le débat politique.
Le comité politique est créé. Il me semble que c'est un droit constitutionnel de participer à l'expression démocratique dans son pays. Devrait-on avoir peur de la loi fondamentale de la Constitution? Devrait-on avoir peur de participer au débat démocratique? Je réponds à cette question, non.
Guillaume Soro a tenu à préciser que ce comité politique n'était pas un parti, mais un groupe de réflexion et de propositions. Demain samedi, le RACI, le Rassemblement pour la Côte d'Ivoire, un mouvement qui plaide pour la candidature de Guillaume Soro à la présidentielle de 2020, va se muer en parti politique. Georges Ibrahim Tunkara, Abidjan, VOA Afrique.
Au Burkina Faso, deux soldats ont été tués et 6 blessés dans l'explosion d'un cadavre piégé à Djibo dans le nord du pays. L'annonce a été faite aujourd'hui par l'état-major général des armées, n'est-ce pas, Idriss Fall?
Suite à la découverte d'un corps sans vie, habillé en tenue militaire, à la sortie sud de Djibo, une équipe des forces de défense et de sécurité a été déployée selon le communiqué de l'état-major. Le dit corps, qui s'est avéré être un piège, a explosé lors de sa manipulation. Le bilan fait état de 2 militaires décédés et de 6 blessés, dont 3 grièvement. Jeudi soir, une source sécuritaire avait fait état d'un médecin militaire tué et de 2 blessés. Le Burkina fait face depuis plusieurs mois à des violences attribuées à des groupes djihadistes. Ils utilisent depuis l'an dernier des engins explosifs artisanaux placés au bord des routes, mais c'est la première fois qu'un corps humain est utilisé comme piège. La semaine dernière, 3 attaques meurtrières ont été perpétrées, dont une qui a tué 5 gendarmes le jour où le président Roch Marc Christian Caboret recevait ses homologues du G5 Sahel pour un sommet consacré à la lutte antiterroriste.
Et le Burkina accueille l'opération Flintlock 2019 qui démarre lundi jusqu'au 1er mars. Il s'agit d'un exercice militaire annuel conjoint entre des forces occidentales et celles de plusieurs pays d'Afrique. Cette année, selon AFRICOM, le commandement militaire américain pour l'Afrique, l'accent sera mis sur le renforcement des capacités des pays du G5 Sahel. Au Mali, un casque bleu tchadien a succombé de ses blessures après un attentat djihadiste d'Aguelok dans le nord-est du pays le 20 janvier. Cela porte à 11 morts. Le bilan de cette attaque, la plus meurtrière subie par la force de l'ONU au Mali, le contingent tchadien a été particulièrement touché avec 54 morts à la fin janvier. Grand meeting de soutien au président Idriss Déby Itno et la France en N'Djamena. Des milliers de personnes du mouvement patriotique du salut se sont rassemblées aujourd'hui au stade Idriss Mahama Ouya. Non à la déstabilisation, non à la prise du pouvoir par les armes, oui à la paix, pouvait-on lire sur des banderoles. Dans le stade, ce rassemblement a été organisé après l'incursion début février d'une rébellion dans le nord-est du Tchad, repoussée par l'aviation française. L'Éthiopie annonce qu'un millier de rebelles du Front de Libération Oromo ont déposé les armes. Ces combattants ont été admis dans des camps de réhabilitation. L'ELF avait fait scission du parti au pouvoir en 1992 et avait lancé une lutte armée. En Tanzanie, le principal parti d'opposition a défié le président John Magufuli en promettant d'organiser des rassemblements interdits. Le Tchadema veut dénoncer une nouvelle loi sur les partis politiques qu'il juge antidémocratique. Au Zimbabwe, entre 60 et 70 mineurs sont présumés morts au fond depuis deux mines désaffectées du centre du pays, inondées à la suite de violents orages. L'ex-ambassadeur d'Afrique du Sud en Iran, Youssef Sologi, a été arrêté pour corruption dans le cadre d'une enquête sur l'attribution en 2005 par l'Iran d'une licence de téléphonie mobile au géant sud-africain MTN.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président Donald Trump a annoncé qu'il va déclarer l'urgence nationale pour financer le mur qu'il a promis à la frontière mexicaine. Cette procédure exceptionnelle ouvre une féroce bataille judiciaire avec ses opposants. Les précisions de Irénée Herman Ungbo.
Monsieur Trump a déclaré une urgence nationale pour contourner le Congrès et obtenir l'argent nécessaire à la construction du mur le long de la frontière avec le Mexique.
Aujourd'hui, nous allons signer et enregistrer l'urgence nationale. C'est la meilleure chose à faire parce que nous sommes envahis par les drogues, les gangs et les gens et c'est inacceptable.
La Chambre et le Sénat ont adopté hier le projet de loi sur la sécurité à la frontière, évitant ainsi une nouvelle paralysie de l'administration fédérale. Monsieur Trump a promis de le signer. Cette urgence nationale lui donne le pouvoir de puiser de l'argent ailleurs dans le budget fédéral pour financer son mur. Les démocrates ne vont pas lui faciliter la tâche. Le président dit prévoir même une longue bataille judiciaire. Selon lui, les démocrates vont porter l'affaire en justice, son camp fera appel et prévoit même d'aller jusqu'à la Cour suprême si nécessaire.
Herman Ungbo. Plusieurs présidents des États-Unis ont par le passé eu recours à ces moyens exceptionnels, mais dans des circonstances différentes. Le président Jimmy Carter avait invoqué l'urgence nationale après la prise d'otage à l'ambassade américaine de Téhéran en 1979. George W. Bush l'a fait après les attentats du 11 septembre 2001 et Barack Obama a eu recours lors de l'épidémie de grippe aviaire H1N1. Une délégation nord-coréenne s'est rendue au Vietnam avant le deuxième sommet entre le président Donald Trump et le leader de Pyongyang, Kim Jong-un. Cette délégation doit avoir des discussions avec des responsables américains sur la logistique du sommet. D'après la Maison-Blanche, le sommet se tiendra les 27 et 28 février, mais Pyongyang n'a toujours pas officiellement confirmé ce rendez-vous. Washington peine à convaincre ses alliés de la coalition d'envoyer des troupes dans le nord de la Syrie après son retrait. Le chef intérimaire du Pentagone n'a pas apporté de solution sur le sort des Kurdes qui ont mené des combats contre le groupe État islamique en Syrie et le maintien d'un effort antiterroriste pour éviter la résurgence du groupe djihadiste. De nombreux pays font face à un retour de leurs djihadistes avec l'annonce de la chute imminente du califat de l'État islamique en Irak et en Syrie. Et l'émissaire de l'ONU pour la Syrie veut réunir dès que possible à Genève le comité constitutionnel syrien pour ouvrir la porte au processus politique. Geir Pedersen estime que cette voie va favoriser des discussions pour aboutir à une solution négociée du conflit. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco présentée par Nanit Sylvanie Talani.
La bourse des matières premières agricoles de Côte d'Ivoire sera opérationnelle en juillet 2020. Ecofin rapporte que cette initiative vise un meilleur financement de la production agricole. La mise en place de la bourse permettra aux producteurs de retirer un juste prix, mais également d'avoir de la visibilité et de la stabilité. Les transformateurs pourront s'assurer un bon approvisionnement de sorte à entraîner l'accélération du processus d'installation d'unités industrielles. L'économie ougandaise devrait connaître une croissance de 6,3% au cours de l'année fiscale 2018-2019, légèrement supérieure à celle de 2018 qui était de 6% selon le FMI. Ce progrès sera possible grâce à la vigueur de l'activité dans les secteurs de la fabrication et de la construction. L'inflation devrait augmenter mais se stabiliser autour de l'objectif de 5% fixé par la Banque centrale au cours des 12 prochains mois, selon le FMI. Pour finir, l'agence onusienne, le FIDA, va lancer un fonds de 50 millions d'euros destiné à attirer les investissements privés dans les PME rurales et la petite agriculture en Afrique. Ce financement devrait permettre de lutter contre la faim et la pauvreté, tout en créant des emplois pour des millions de jeunes dans des zones où ils sont tentés par l'émigration.
Après l'économie, nous passons au sport avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonsoir.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Le Sénégal et le Mali se préparent pour la finale de la CAN des moins de 20 ans.
Oui, le Mali affrontera le Sénégal ce dimanche à 15h temps universel au stade Sénou Koundié de Niamey. Les deux formations se retrouvent pour une deuxième fois après leur premier match en phase de poule. Depuis Niamey, nous retrouvons Siaka Traoré, notre envoyé spécial sur place.
Avec la meilleure attaque, 10 buts marqués et la meilleure défense, un seul encaissé, le Sénégal est sur papier l'équipe favorite de cette finale. Les Lionceaux retrouvent les Aiglons du Mali qu'ils avaient déjà battus en match de poule. Toutefois, pour leur entraîneur, la finale est une autre réalité puisque les compteurs sont remis à zéro. Youssouf Dabo.
Ce sera un match différent parce que c'est une finale. On les avait battus sur le premier match et après ce match, j'avais dit que le Mali ira loin dans ce championnat parce que je les ai vus jouer, donc je connaissais la qualité de cette équipe. Ce sera une finale très difficile, une finale n'est jamais facile. Voilà, nous on se prépare de notre côté et puis on verra ce que ça va donner. Ce qui est important, c'est ce que nous allons proposer.
Le coach du Mali, Mamoutou Kané Dimourlé, reconnaît qu'il va en découdre en finale avec un adversaire de taille affronté à maintes reprises. Et de toute façon, la finale pour lui est un bonus car l'objectif est déjà atteint.
Ça n'a pas été facile, mais c'est la somme du football. C'est prévu pour 5 matchs. On a eu les 5 matchs, on a préparé comme ça. Et Dieu merci.
Que le bon Dieu nous accompagne, que le bon Dieu nous guide. Amen.
À propos des 5 matchs à cette phase finale de la CAN U20, il s'agit notamment des 3 matchs de la phase de poule, la demi-finale et la finale. Il faut préciser qu'avant cette rencontre, le samedi 16 février, va se jouer la petite finale entre le Nigeria et l'Afrique du Sud. Siaka Traoré à la CAN U20 à Niamey au Niger pour VOA Afrique.
Enfin, les arbitres togolais retrouvent les terrains ce week-end, n'est-ce pas?
Oui, après avoir laissé planer le doute sur leur présence sur les pelouses, face à la recrudescence des violences contre ses membres, l'Association nationale des arbitres
arbitre les a appelés à officier les matchs des championnats des 2-1, D2 et 2-3. Cette décision fait suite aux discussions entamées depuis lundi avec la Fédération togolaise de football. L'instance a décidé de suspendre à titre provisoire les stades de Kambou et Dapong après les incidents survenus lors des matchs Bikenti, Gomido et Faudan Dito. Ainsi, pour cette 17e journée des 2-1, entre autres, Asco reçoit l'AS Autre. Le leader ASCK se déplace à Lomé pour affronter Dito. Gomido attend Semassi. Ange sera face à Faudan. Duel entre Sarah et Koroki.
Merci Akuba. Bon week-end à toi. À lundi.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De retour avec vous, Eric Manilakiza. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Place au dossier du jour. Jour J-1 au Nigeria. Les Nigériens se rendent aux urnes demain samedi pour des élections présidentielles et législatives. La campagne a pris fin hier et les candidats ont rejoint leurs états d'origine pour voter dans un scrutin présidentiel qui s'annonce très serré entre les deux principaux candidats. Le reportage de Gilbert Tamba depuis Abuja.
Pendant les trois mois de campagne, seuls les deux principaux candidats, le sortant Muhammadu Buhari et Atiku Abubakar, ont pu faire le tour des 36 états du pays. Réaction de Frank Sabitros Dahi de l'université de Jos.
Je pense que la campagne s'est terminée sur une bonne note et surtout que les partis ont signé un accord de paix. La population avait des doutes que cela allait se passer. Je pense donc que la signature de cet accord signifie que la campagne s'est achevée dans de bonnes conditions et nous espérons que les élections seront très pacifiques, sans violence.
Un avis que partage Chidima Oko.
Les partis ont fait une très bonne campagne. Maintenant, nous attendons que demain, les gens aillent aussi voter dans la paix. Nous espérons vraiment qu'ils ne provoquent pas de violence.
L'engouement pour ces scrutins est perceptible. Les États comme Lagos, Kano, Kaduna, Katsina, Oyo, Delta, Plateau ou encore Bauchi sont considérés comme les plus décisifs. Djibril Ibrahim du Centre pour la démocratie et le développement.
On a considéré surtout des États qui ont une population très élevée. Quand tu prends les États comme Lagos et Kano, ils composent carrément 15 à 18% des votants. Donc ces États-là vont avoir un impact beaucoup plus significatif sur les processus électoraux.
La situation dans le nord-est où sévit Boko Haram reste une préoccupation pour beaucoup, craignant des attaques. Ibn Chambas, le représentant de l'ONU en Afrique de l'Ouest et du Sahel, souhaite que tout se passe dans le calme.
Et nous espérons que tous qui sont enrôlés pour, n'est-ce pas, voter, puissent sortir demain dans une condition bien sécurisée d'exprimer leur voix et que tous les Nigériens restent calmes pour, n'est-ce pas, la finalisation de ce processus électoral.
Le président sortant, Muhammadu Buhari, a appelé dans une adresse à la nation les Nigériens à sortir massivement pour voter selon leur conscience. La sécurité est renforcée dans tout le pays. La police a mobilisé 300 000 hommes pour assurer la sécurité des scrutins de demain. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
Suite de la série sur les attentes des populations sénégalaises à la veille de la présidentielle du 24 février, ce soir, la santé. Les doléances restent nombreuses malgré plusieurs plans lancés par le gouvernement sortant pour un accès facile aux soins. De Dakar, notre correspondant Seydina Abagay.
Le 24 février 2019, les Sénégalais iront aux urnes pour élire un président de la République. Le président qui sera élu aura du pain sur la planche car les attentes sont nombreuses. Quelles sont les doléances en ce qui concerne la santé ? Amad Dem, fonctionnaire, nous dresse la liste.
Tout juste de renforcer les hôpitaux. de renforcer le plateau médical, sorte que les gens qui ont les moyens d'aller à l'extérieur pour se soigner restent ici. Il faut aussi revoir aussi les prix parce que c'est trop cher. En quelque sorte, du social pour que tout le monde puisse se soigner, quoi. Il faut aussi subventionner les écoles de santé. Parce qu'actuellement, il y a beaucoup d'étudiants ici, mais par contre, il y a aussi des étudiants qui ont énormément de difficultés à payer leur scolarité et même les inscriptions. Donc, il va falloir tout revoir pour au moins que le système puisse fonctionner.
La mortalité maternelle reste un défi pour l'État du Sénégal malgré les efforts consentis. Le ratio est de 315 décès sur 1000 naissances. Safia Mansour Thiam, étudiante sénégalaise d'origine mauritanienne, suggère la surveillance du taux de mortalité maternelle et le lancement d'un plan de riposte de la pandémie.
Moi, je pense qu'on doit renforcer les hôpitaux, faire attention et aussi faire tout pour diminuer le taux de mortalité et de morbidité.
La répartition du personnel de la santé est disproportionnelle. Dakar concentre plus de professionnels de la santé comparé aux autres régions. 39% des professionnels de la santé se trouvent dans la capitale, suivi de Thiès avec 10% et de Kaolack avec 7%. La région de Kédougou concentre seulement 1%. Voilà pourquoi Aram attend du futur chef de l'État le renforcement du personnel soignant.
Tu passes 3 ans à faire de formation, tu payes cher, tu sors, tu chômes. Ça, c'est pas bon. Alors que j'ai entendu là-bas, un retraité, on appelle son fils pour lui dire que viens, tu vas remplacer ton père. Alors qu'il y a quelqu'un qui a fait son formation 3 ans, avec ses diplômes, on ne l'embauche pas. Ça, c'est de l'injustice. C'est ça que je veux qu'il fasse. Il doit réduire le taux de chômage en prenant les gens diplômés. Un homme qualifié à la place qu'il faut.
Le plan national de développement sanitaire 2009-2018 a pour ambition de résorber les problèmes de soins et de santé dans le pays. Malgré les efforts, la réalité aujourd'hui, c'est que les attentes des populations restent toujours élevées. À Dakar, Seydina Abagay pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
Dix-huit ONG basées en Afrique et en Europe se préoccupent de l'avenir de plus de 93 millions de personnes riveraines du bassin du Congo. Le principal défi qui s'oppose ici est celui d'améliorer les moyens de subsistance desdites communautés. Pour y parvenir, un projet dénommé Congos a été élaboré depuis 3 ans. Son bilan vient d'être dressé au Cameroun de Yaoundé et notre correspondant Emmanuel Juntap.
Le bassin du Congo englobe le Cameroun, le Gabon, la République centrafricaine, le Congo-Brazzaville et la République démocratique du Congo. L'avenir des populations riveraines de ce massif forestier dépend de la bonne utilisation de la forêt et du niveau de leur implication dans sa gestion. C'est la raison d'être du projet Congos qui vise à promouvoir la foresterie communautaire notamment. Mais 3 ans après le lancement du projet, les résultats sont mitigés. Ingrid van Gisbergen de l'organisation FERN qui œuvre pour l'amélioration des politiques forestières.
Au Congo-Brazzaville, on se lutte encore pour qu'il y ait un cadre législatif. Au Cameroun, la foresterie communautaire existe par la loi depuis très longtemps. La législation de la RDC est la meilleure, mais maintenant il faut la mettre en œuvre.
Le cadre de la République centrafricaine est quelque peu alarmant de l'avis des experts. C'est le parent pauvre de la foresterie communautaire dans le bassin du Congo. Guy-Julien Ndakouzo, coordonnateur adjoint de la plateforme gestion durable des ressources naturelles et de la forêt en RCA.
Aucune forêt communautaire existe juridiquement en RCA. Dans le massif forestier du sud-ouest, toute cette partie est destinée à l'exploitation forestière et à la conservation. Vous allez avoir seulement un infime pourcentage qui sera peut-être mais impossible de pouvoir donner à l'état actuel.
Justement, la foresterie communautaire a été conçue comme une opportunité pour la survie des communautés du bassin du Congo. Le Cameroun s'y est engagé depuis une vingtaine d'années et a pu engranger de bons résultats, notamment autour de la réserve du Dia dans la région du sud du Cameroun. Manfred Epanda, de la African Wildlife Foundation, une ONG panafricaine de valorisation de la faune et des terres sauvages.
Les communautés gagnent plus qu'ils ne gagnaient avant. Maintenant, ils ont de l'argent et eux-mêmes peuvent payer l'éducation pour leurs enfants, aller se soigner à l'hôpital, développer d'autres business.
Avec une bonne législation de la foresterie communautaire, la RDC ne met pas encore pour autant la population concernée à l'abri du besoin. Théophile Ngata Dikoulou-Kila, directeur exécutif du Centre d'appui à la gestion durable des forêts tropicales en République démocratique du Congo.
Il a été de
décidé que dans le projet de texte qu'on suggère à l'État, 50 000 pour une communauté au plus, sur base d'un plan simple de gestion. On pense que la durabilité peut être assurée.
Lors des échanges sur le bilan du projet Kongos, la mise sur pied d'un meilleur cadre juridique autour de la foresterie communautaire a été fortement recommandée par les experts. Nathalie Faure de l'organisation Client Earth, une ONG du droit de l'environnement basée à Londres.
Je pense qu'il y a la reconnaissance des claires et solides des droits des communautés locales et populations autochtones, mais également le besoin d'avoir des processus d'attribution simples et clairs aussi de la forêt communautaire, d'avoir un partage des bénéfices qui est équitable.
Il n'en faudra pas plus pour améliorer les moyens de subsistance des communautés forestières dans le bassin du Congo. Yaoundé, Emmanuel Jules Tap, VOA Afrique.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Ici aux États-Unis, le président Donald Trump a déclaré ce matin l'état d'urgence nationale pour pouvoir contourner le Congrès et financer le mur qu'il veut construire à la frontière avec le Mexique. Le Congrès, qui a adopté hier un budget complémentaire, ne lui a pas accordé les 5,7 milliards de dollars qu'il réclamait. Mais cette déclaration d'état d'urgence suscite déjà la polémique, n'est-ce pas, Abdulrahman Dia?
Le président Donald Trump justifie cette procédure exceptionnelle par ce qu'il a appelé une crise de sécurité nationale et humanitaire à la frontière sud.
C'est une bonne chose à faire parce que nous avons une invasion de drogue, une invasion de gangs, une invasion de personnes et c'est inacceptable. Ce que nous voulons faire est très simple. Nous voulons arrêter l'entrée de la drogue dans notre pays. Nous voulons arrêter l'entrée des criminels et des gangs dans notre pays.
L'administration assure qu'elle peut dégager 8 milliards de dollars. La déclaration du président intervient moins de 24 heures après que les deux chambres du Congrès ont passé à une écrasante majorité le budget finançant plusieurs secteurs du gouvernement jusqu'en septembre. Ce vote permet d'éviter la fermeture partielle des administrations fédérales. Il prévoit le financement pour 1,3 milliard de barrières en acier à la frontière en lieu et place des 5,7 milliards que le président réclamait pour son mur. Mais plusieurs milliards sont prévus pour l'amélioration des contrôles aux ports et aéroports, la technologie et l'aide humanitaire à la frontière. Donc, pour les alliés du président, il ne s'agit pas d'une défaite pour lui. John Rutherford est un représentant républicain au Congrès.
Le président n'a pas perdu. C'est même une grande victoire pour le ministère de la Sécurité intérieure et un grand pas vers la bonne direction en matière de sécurité à la frontière.
En acceptant de signer le budget, le président évite certes une crise qui serait causée par un shutdown, mais sa déclaration de l'état d'urgence nationale pourrait certainement en créer une autre, car cette procédure exceptionnelle lui permet de contourner le Congrès en utilisant des fonds déjà alloués à d'autres projets. Les démocrates ont déjà mis en garde contre ce qu'ils considèrent comme un abus de pouvoir. Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants.
Ce que nous ferons maintenant, ce sera d'honorer la Constitution, surtout en son article premier, surtout notre rôle de contrôle. Nous n'allons pas permettre qu'on contourne le Congrès des États-Unis.
Les démocrates et des organisations de la société civile vont certainement traîner l'administration Trump devant les tribunaux, une procédure qui pourrait prendre des années et retarder la construction du mur. Beaucoup de républicains ont aussi exprimé leurs doutes sur la décision du président de déclarer l'état d'urgence national. Reste à savoir s'ils iront jusqu'à rejeter cette déclaration de l'état d'urgence au Congrès, comme prévoient de le faire les démocrates.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler et participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa. Yeah. Hey.
Voilà, le rythme du vendredi méchant a déjà sonné. Georges Léonard Sagno qui danse déjà. Il assurait la mise en onde à la console, Dan Craft, la présentation. Eric Manilakiza, c'est la fin de cette édition. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur votre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Excellent week-end à toutes et à tous. Chaque jour est une vie. Continuez à danser au rythme de Busy Bee. Au revoir.